Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Ohana. Si vous avez suivi l'épisode d'hier, eh bien non seulement je ne suis pas tout seul sur ce podcast, mais ça c'est une question d'habitude, cette semaine je suis avec deux scooters, avec mon compère Olivier. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et avec son papa Xavier. Salut Xavier.
Hello Hermano, salut Olivier.
Messieurs, hier on a revu très rapidement ton histoire avec le vélo. Xavier, tu nous disais que tu as eu l'impression de grandir sur un vélo ou peut-être de grandir avec un vélo. En off, on parlait un petit peu tout à l'heure, tu nous disais que tu nous rappelais qu'effectivement c'était beaucoup de bons moments, beaucoup de bons souvenirs sur des vélos un peu tunés. Je pense que les auditrices et les auditeurs imaginent très bien, mais je vois très bien cette image des gamins qui jouent dans les rues, dans les blocs, dans le quartier, un peu comme dans les films qu'on voit avec ces grands vélos un peu en mode Harley Davidson.
Tout à fait, c'était des petites Harley Davidson à pédale, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, pour faire le bruit du moteur, on mettait avec des pinces à linge, on mettait des cartes, des un jeu de cartes dans les rayons. Voilà, comme ça on avait le bruit du moteur.
Moi je faisais ça avec des canettes en métal. Bon, c'était moins bien pour les pneus évidemment.
Voilà, tu vas commencer à tout savoir, hein, Xavier. Pourquoi est-ce que tu changeais régulièrement les pneus d'Olivier?
Mais voilà.
Bon, c'est ce qui est quand même impressionnant parce que à l'époque, ou enfin, en tout cas quand vous étiez enfant, et c'est aussi des bons souvenirs que j'avais moi, c'est vrai qu'on cherchait à être le plus visible possible, à faire le plus de bruit possible, on regardait pas trop le poids de la bécane, de la machine. Maintenant, ça a un petit peu évolué. Quelle est ton utilisation maintenant du vélo, Xavier?
Il y en a plusieurs. En fait, essentiellement, c'est de la route, c'est sur mon vélo de course. Et d'ailleurs, avant-hier, c'était encore avec Olivier, il m'a emmené dans le Paillotenland, il m'a fait souffrir pendant 2 heures. On est allé faire le mur de Grammont, mais lui, il est là sur son vélo profilé contre la montre, et moi, j'essaye péniblement de suivre, parce que ouais, voilà, j'ai plus la performance de mes 20 ans, évidemment. Et lui, il est incapable de, une fois qu'il est sur son vélo, il est incapable de se contenir, quoi. Il fonce. On est allé faire 80 et des kilomètres à vive allure. Mais bon, c'est ce que je fais essentiellement. Mais moi, je le fais à des moyennes. Voilà, j'aime bien faire de la grande distance, des 100, 120, 150 kilomètres, voire plus. Mais je fais des moyennes de 24, 25 kilomètres heure, ça me suffit.
Pour revenir sur l'épisode d'hier où tu disais que tu approchais tout bientôt la soixantaine, des 150, 180 km, même à 25 km/h de moyenne, c'est quand même une belle performance.
Bah, on devient tout doucement un moteur diesel, quoi, un vieux cheval endurant, quoi. On part et puis on y va pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures. Il m'arrive de rouler, 7, 8 heures et bon, ça va, je tiens les genoux parfois qui flanchent un peu, mais à part ça, ça va. Et ça, c'est l'endurance, mais plus dans la performance, la compétition, le challenge de je regarde rarement quelle est la vitesse à laquelle j'ai avancé, j'essaye pas plus de battre des records, j'ai passé l'âge d'avoir des choses à me prouver de ce côté-là. Mais le vélo de course, ça reste un très très grand plaisir. À côté de ça, un petit peu de VTT parce que j'habite dans le Brabant wallon et j'ai la forêt de Villers-la-Ville juste à côté, donc c'est un très beau terrain, un très beau spot pour faire du VTT. Et alors ce que j'adore par-dessus tout, mais il faut avoir le temps pendant les vacances, c'est de faire au moins une fois par an un grand voyage à vélo, partir minimum, enfin j'aimerais bien que ce soit minimum un mois ou davantage, parcourir un pays. Ou par exemple, si tu veux, c'était partir de Bruxelles et aller jusque dans les Pyrénées ou revenir des Landes. Avec Olivier, c'était aussi parcourir la route des Alpes avec 16, 17 cols, je sais plus, d'affilée, tout en portant la tente et tout le machin, quoi. Ou alors on est parti aussi, Olivier et son plus jeune frère Florian et moi, jusqu'à Copenhague. Et puis alors j'ai fait des très très chouettes voyages en tapant mon vélo dans l'avion pour me rendre dans l'Himalaya. Ça, c'était l'expérience par excellence, quoi. Ça, c'était du tout grand, ça.
Ah ouais, donc ça, j'imagine. Alors, bah, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce voyage vers l'Himalaya? On rentrera beaucoup plus dans les détails sur cet aspect-là du voyage demain, mais rapidement, comment est-ce que t'es venu l'idée? Quand est-ce que c'était? Comment est-ce que t'as organisé ça? Voilà, un petit peu les souvenirs que t'en as.
Alors, je l'ai fait deux fois. Le premier voyage dans l'Himalaya, c'était en 99. Et pourquoi j'ai eu envie de faire ça? Ben, tout simplement parce que ça réunissait trois de mes centres d'intérêt ou trois de mes passions. Bon, un, le vélo évidemment, et puis deux, la montagne. J'adore la montagne. Je trouve que on y respire mieux, il y a moins de monde, tout est plus pur. Les gens qu'on y rencontre sont plus rudes, mais j'aime bien les montagnards. Et puis une troisième chose, c'est que l'Himalaya, ben, c'est le monde tibétain, et je suis fasciné par la civilisation tibétaine. Je suis historien des religions aussi, donc le bouddhisme tibétain, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément intéressé. Et donc parvenir à joindre ces trois centres d'intérêt, c'était la garantie d'une réussite absolue. Et effectivement, ça a été un voyage de 6-7 semaines, 1700 kilomètres, mais avec des cols à franchir à plus de 5000 mètres. Il y a un col au-dessus de Leh qui se trouve au Ladakh. On est sur le territoire de la République indienne, mais dans le domaine tibétain. Et il y a là le plus haut col du monde, la plus haute route du monde. Elle est à 5680, je sais plus. Et je l'ai fait d'ailleurs avec le petit frère d'Olivier, avec Florian, lors du deuxième voyage. Et là, c'est quelque chose de fantastique, parce que pédaler à cette altitude-là, c'est une expérience absolument inouïe. On peut pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire, évidemment, ici, même dans les Alpes, quoi. On est au-delà de 3000, au-delà de 4000, au-delà de 5000, et on arrive à 5006. Moi, je me souviens très bien que j'essayais péniblement, non, je n'y arrivais pas, j'essayais sans y parvenir, de faire monter le compteur kilométrique à plus de 7 km à l'heure. Je me dis, allez, je vais essayer de faire du 8, quoi, parce qu'on est à la limite de la rupture d'équilibre, parce que c'est en plus des pistes caillouteuses, c'est pas du bon macadam, vous pouvez l'imaginer. Et impossible, quoi, dès que j'essayais d'atteindre le 8, il y avait les poumons qui explosaient, quoi, les jambes se mettent à trembler, il faut regarder sous la pédale, parce que c'est des ascensions. Je me souviens d'une ascension de 60 km. 60 km de côte, quoi. Alors là, bon, c'était moins raide, évidemment. 60 km de route, c'était pas un Mont Ventoux, c'était du 6, 7, 8% peut-être. Mais pendant 60 km, avec des cailloux, des nids de poules, il faut trimballer sa tente aussi, parce que c'était en indépendant. Alors tu me demandais comment j'avais préparé. Ben, préparer ça, c'est une grosse partie de la préparation, c'était préparer la nourriture. Il fallait être indépendant pour la nourriture, parce que c'est un paysage lunaire, hein. Le Ladakh, c'est un cratère lunaire. Il y a rien. Il y a pas une pousse. Il y a de temps en temps un aigle. Il y a de temps en temps un yak, mais sinon il y a pas de vie, quoi. Il y a des nomades tibétains. Il y a des monastères tibétains. Autour du monastère, il y a un peu d'agriculture, mais sinon il y a absolument pas moyen de trouver un petit magasin au coin de la rue pour s'acheter son sandwich, quoi. Donc je partais avec des lyophilisés, avec des barres énergétiques en guise de petit déjeuner, parce que c'était ça ou c'était rien. Donc j'ai maigri pas mal, je suis pas très gros, mais je suis revenu de ce voyage, je pesais vraiment pas très lourd. Et il y avait un gros problème, c'était l'approvisionnement en eau, évidemment. Donc là, j'avais un filtre Katadyn, ces espèces de grosses pompes qui permettent de tirer de l'eau de n'importe quelle flaque en la rendant buvable. J'ai ajouté des petits micropures pour la purifier une deuxième fois quand même, mais ça c'était le gros problème, parce que ça, il y a rien à faire, il y a pas moyen de transporter des litres et des litres, et il faut faire gaffe à la déshydratation à cette altitude. Donc c'était arriver le soir, bivouac sur un plateau désertique avec une voûte céleste extraordinaire, tout seul de chez tout seul. Il m'arrivait de ne pas croiser la moindre personne, la moindre ombre humaine pendant plusieurs jours, hein, 2-3 jours. Donc je commençais à causer à mon vélo parce que je devenais dingue. Enfin, je devenais dingue, non, j'adorais ça, mais j'avais besoin de parler. Donc je parlais à mon vélo et je lui racontais, tu vois, je vais me faire un poulet curry ce soir, donc avec mes petits lyophilisés, ou ce sera non, un bœuf stroganoff. Mais alors manger un poulet curé à 3000 mètres d'altitude en bivouaquant, c'est quelque chose de fabuleux. C'est des grands souvenirs, ça.
Ah, j'imagine que ça doit pas être au niveau, même au niveau du goût, ça doit pas être du tout la même chose que ce que t'as l'habitude en pleine. Et puis en plus, tu rajoutes à ça la fatigue, l'effort et l'altitude. Ça doit être passez-moi l'expression, mais jouissif, non?
Absolument. Oui, non, c'est une expérience de vie très très intense, tous les jours, parce que c'est vraiment. Moi, je disais toujours, c'est l'adhérence à la route, c'est comme l'adhésion à la vie, quoi. On est là avec un précipice à sa gauche, il n'y a pas de parapet qui nous en sépare, donc c'est une concentration, une présence absolue, totale à tout moment. On est vraiment dans l'immédiat, quoi. On est vraiment dans le présent. On n'est pas en train de penser à autre chose. On est vraiment en train de faire ce qu'on aime. Quoi.
Moi, je suis fasciné. Je bois tes paroles. On s'était dit qu'on ferait vraiment un épisode spécial là-dessus. Donc, je propose qu'on le garde pour demain. On peut peut-être en rester là pour aujourd'hui. Messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Olivier, il faut que tu réagisses parce que je te vois. Alors, les auditeurs ne te voient pas, mais je te vois. Tu as l'air un petit peu ému ou alors tu as juste l'habitude d'entendre ton papa parler comme ça. Qu'est-ce que ça te fait, toi?
Alors, je l'ai déjà entendu souvent raconter ses aventures, notamment celle dans l'Himalaya, évidemment. Maintenant, à chaque fois que j'entends l'histoire, je pense que j'en apprends toujours davantage. Et c'est vrai que bon, bah oui, en 99, donc en 99, bah, moi j'avais 7 ans. Quand j'avais 7 ans, mon papa revenait de l'Himalaya à vélo, il était allé rouler sur les plus hautes routes du monde, donc c'est vrai que pour moi ça a toujours été un peu une inspiration l'inspiration pour le vélo évidemment, mais aussi pour le voyage, pour le challenge, donc voilà, c'est quelque chose qui a toujours été très présent évidemment. Ouais.
Bon, c'est pour ça que maintenant tu t'en vas en Colombie et puis tu roules sur des vélos de jeunes filles en attendant de trouver de quoi monter un col correctement, c'est ça?
On fait avec les moyens du bord.
Bon, messieurs, je vous donne rendez-vous demain pour justement revenir plus en détail sur ces deux expéditions de l'Himalaya à vélo.
Avec plaisir. Très bien.
À demain.
À demain. Au revoir.
Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcasts.